devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Benoît Sambou, ministre d'État président de la Commission nationale du dialogue des territoires, chargé des élections à l'APR et plénipotentiaire national de la coalition Benno Bokyakar. Au menu de l'entretien avec Babacar Fall, les incidents de Ziguinchor entre PASTEF et l'APR, les prochaines élections territoriales dans cette région, va-t-on vers un scrutin tendu à la lumière de cette violence qui mine déjà l'espace politique, la Casamance, l'avenir des territoires entre autres sujets, sans oublier les questions économiques et sociales. Babacar Fall, Benoît Sambou devant le grand jury dimanche 11h10 sur la RFM.
Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de RFM. Les paradoxes de Macky Sall, le président de la République, qui est allé à Dubaï pour participer à l'Expo universelle pour vendre les atouts du Sénégal et qui en même temps vilipende ce même Sénégal en y déclarant que notre pays, il est sale. Le triste spectacle de Ziguinchor que nous ont offert les hommes politiques, les violences de lundi provoquées par l'APR et PASTEF. Les tristesses de cette semaine, c'est aussi la disparition brutale de Joseph Koto, l'ancien international sénégalais de football, qui a été ensuite sélectionneur de plusieurs de nos équipes nationales et qui nous a quittés jeudi à l'âge de 61 ans. Koto fait partie de l'équipe référence des Lions qui a participé à la CAN de 1986, la belle équipe du Sénégal de Caire 86. Vous avez sans doute des souvenirs de Koto et de 86. Benoît Sambou, bonjour.
Bonjour Babacar. Après avoir salué également très respectueusement les auditeurs de la RFM, je voudrais aussi saluer tous les Sénégalais qui nous écoutent ou qui nous regardent. C'est vrai que ça a été un grand choc pour moi d'avoir appris le décès, la disparition brusque et brutale de Joseph Koto, Boutchou, comme on aimait l'appeler à la CICAP. Un homme que j'ai eu le plaisir de connaître, de fréquenter. Nous avons partagé des moments extrêmement bons et joyeux à la CICAP. Et j'ai eu aussi le plaisir et la joie de le suivre dans sa carrière de sportif. Comme tout jeune ayant grandi dans la CICAP, nous suivions beaucoup la Jeanne d'Arc de Dakar, où il excellait aux côtés de Baba Touré, de Roger Mendy, de Fidel Diatta, etc. Les Ibrahima Diakhaby et consorts. C'est une grande perte pour notre pays. Et j'ai encore des souvenirs de ces matchs où il avait illuminé la nuit de Demba Diop lors de ce fameux match Jeanne d'Arc Monaco où il avait ébloui le stade Demba Diop et les professionnels de Monaco. Joseph Koto, c'était la joie de vivre. Joseph Koto, c'était l'engagement. Joseph Koto, c'était l'abnégation. C'était le courage. J'ai de lui le souvenir d'un homme qui n'avait jamais peur, qui ne doutait jamais de rien. Et c'est ce qui m'impressionnait en lui. Je dis, mais comment ce bout d'homme pouvait renfermer en lui autant d'énergie, autant de courage? Joseph Koto n'avait jamais peur. Il était prêt à tous les défis. Et nous avons perdu un homme aussi qui a aimé son pays, qui a servi son pays à tous les niveaux. Et c'est aussi le coach sénégalais, je crois, qui est le plus titré au service de l'équipe nationale. À la famille de la CICAP, à sa famille, à son épouse, à ses enfants, à ses deux enfants, au monde sportif, je présente toutes mes condoléances. À la nation sénégalaise aussi, nous présentons nos sincères condoléances. Boutchou a encore dribblé son monde. Il n'a jamais cessé d'être virevoltant. Il n'a jamais cessé d'être insaisissable. Malheureusement, il est parti si jeune, mais que le Seigneur l'accueille dans son paradis.
Koto, c'est aussi votre homonyme, un peu, puisque vous vous appelez Benoît Joseph Sambou. Vous avez été ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, puis ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des Valeurs civique à l'accession de Macky Sall à la présidence de la République. Depuis novembre 2017, Benoît Sambou, vous occupez les fonctions de président de la Commission nationale de dialogue des territoires avec rang de ministre d'État en remplacement de Feu Djibo-Leitika. Cette Commission nationale de dialogue des territoires, elle est rattachée à la présidence de la République. Et quand on parle de vous et de territoire au plan politique, vous êtes militant et responsable à Ziguinchor de l'Alliance pour la République, le parti présidentiel. C'est là-bas qu'on a assisté en début de semaine à des scènes de violence qui ont opposé des partisans de votre camarade de parti, Doudouka, à ceux d'Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, lui aussi originaire de la région, et qui était en tournée. Et votre parti, qui accuse Sonko d'être le principal responsable de ce qui s'est passé, PASTEF et des médias, certains médias du moins, disent le contraire. Quelle est votre version des faits?
Alors, vraiment, c'est déplorer et condamner ce qui s'est passé à Ziguinchor. Dès que j'ai été au courant de ces événements, j'ai condamné fermement.
Vous étiez à Ziguinchor pendant que ça s'est passé?
Parce que je reviens à Ziguinchor jeudi soir et j'ai passé une semaine là-bas, comme régulièrement je le fais. Et le soir, en revenant donc d'une tournée dans les quartiers de Ziguinchor, que j'ai appris cette nouvelle, et elle m'a choqué. Elle m'a choqué parce que rien ne justifie ce qui s'est passé. Rien ne saurait le justifier. Et je l'ai condamné. J'ai condamné ce déferlement de violence inacceptable. Parce que quand j'ai vu les images de ces jeunes gosses qui vidaient leur sang ou poignardaient gisant à terre, j'ai dit, nous sommes en politique pour servir. Nous sommes un parti au pouvoir qui doit rassurer les populations. Nous ne saurions, sous aucun prétexte, participer à un tel déchaînement de violence. Quelle que soit la circonstance, même s'il peut y avoir des provocations, nous devons garder notre sérénité et comprendre que cette région a beaucoup souffert de la violence. 40 ans de crise, beaucoup de blessés et de morts, une économie à terre. Aujourd'hui, le président de la République est en train de faire énormément d'efforts pour que cette région retrouve sa place comme locomotive du développement et de l'émergence de notre pays, à travers des programmes de désenclavement et autres, sûrement qu'on y reviendra.
Quand on vous suit bien, Benoît Sambou, vous déplorez le comportement des camarades de Doudouka.
Je déplore cette violence que rien ne peut justifier.
Vous accablez Doudouka.
Aucun casemancé ne saurait apporter son soutien à des acteurs impliqués dans de la violence. Nous ne voulons plus de ça en Casamance. Nous voulons des idées. Nous voulons des propositions.
Vous n'êtes pas d'accord avec Doudouka sur ce qui s'est passé?
Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Quel qu'en soit l'auteur, je ne saurais citer une quelconque personne parce qu'il y avait deux acteurs impliqués là-dedans. Mais de ce que j'en sais...
Vous ne soutenez pas Doudouka dans cette affaire-là?
J'ai dit aucun Casamance ne saurait soutenir quelconque acteur impliqué dans des actes de violence.
Vous ne l'avez pas soutenu.
Nous l'avons vécu.
Vous ne l'avez pas soutenu.
Nous le regrettons et nous souhaitons que cela ne se reproduise plus. Et nous en profitons pour appeler les uns et les autres à la raison et à la retenue. Nous allons vers des moments assez agités, avec des périodes de mobilisation, des périodes de pré-campagne, des périodes de campagne électorale. Des fois, le spectacle désobligeant de leaders politiques accompagnés de malabar me dérange. Je ne comprends pas ce que l'on recherche derrière ces images-là.
Vous parlez de la PR et de l'opposition?
De tout le monde. Dans ce pays, de plus en plus, on est en train d'installer une logique de violence à tous les niveaux. que ce soit sur les réseaux sociaux, à longueur de journée, des individus font des sorties, envahissent les réseaux sociaux, s'attaquent aux personnes dans des propos extrêmement graves, désobligeants, dans nos universités, dans nos écoles, dans la rue, sur la scène politique, partout. Nous donnons un spectacle inacceptable à ne pas servir à notre jeunesse et à nos populations. Je ne comprends pas comment se fait que du jour au lendemain, tout le monde puisse organiser des milices autour de sa personne pour défier donc, l'adversaire ou pour soi-disant se protéger. Écoutez, les Sénégalais ont besoin de paix. Les Sénégalais ont besoin d'idées, de propositions, d'argumentaires. Nous sommes dans un pays civilisé. On ne peut pas, du jour au lendemain, transformer notre pays en un ring à ciel ouvert et à tous les nouveaux. Et nous sommes tous responsables. Et nous devons nous ressaisir.
Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, vous ne le dites pas parce que Doudouka, directeur général de l'AIBD, il est votre concurrent à l'APR, à Ziguinchor. En même temps, lui aussi, peut-être, a cherché à se positionner davantage avec ces incidents de lundi.
Doudou est un petit frère que j'adore et je couvre. Il le sait très bien et tout le monde le sait. Jamais je n'ai tenu de propos désobligeants à son endroit. Mais mon niveau de responsabilité ne me permet pas de faire l'apologie de la violence ou d'en trouver un justificatif. Je ne dis pas que moi...
Vous ne faites pas pour ça de la solidarité de parti, non?
Il ne s'agit pas de solidarité. Vous savez, Babacar, nous avons grandi dans une région qui a tellement souffert. Où aujourd'hui, notre seul combat, c'est de faire en sorte que cette région puisse enfin profiter à ses enfants et au Sénégal. Tous les jours, nous travaillons à pacifier les cœurs. Nous ne voulons plus de ça en Casamance. Les Casamançais ont assez souffert. Nous devons mobiliser toute notre énergie à rassembler les fils de cette région pour aider cette région à donner les meilleurs fruits dont le Seigneur là, que le Seigneur lui a donné au service, pour le service, pour servir notre pays. Babacar, quels que soient nos ressentiments, quelle que soit notre position politique, nous devons éviter de plonger cette région dans des souvenirs que nous ne voudrions plus revivre. Je dis bien, quel que soit, et j'appelle au sens de la responsabilité des uns et des autres, il ne faudra plus que des hommes politiques, ou quelconques individus, versent le sang des Casamançais pour une quelconque raison. Il ne faut pas ouvrir la boîte à Pandore. On ne peut pas justifier la violence. La justifier, c'est la susciter. La justifier, c'est préparer les gens demain à des joutes sanglantes. Et personne ne saurait l'accepter. Nous devons avoir un cœur généreux. Poser un débat qui permettre aux populations d'appréhender de manière efficiente toutes les réalisations et les efforts que le président de la République est en train de faire. Au lendemain des élections 2019, la réflexion que j'ai pu mener, je me suis dit, non, après tout ce que le président a fait en Casamance, il est en train de faire. La Casamance est la région qui a accueilli le plus d'investissements au Sénégal. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier qu'il ait perdu aux élections présidentielles de 2019? Il faudrait que tout un chacun fasse son entre, notre interprétation pour comprendre que les relais sur le terrain doivent offrir un nouveau visage.
Vous êtes tous responsables, vous êtes d'accord.
Nous sommes tous responsables.
Vous êtes le coordinateur départemental de l'APR à Ziguinchor.
Et je dis, en faisant l'analyse de ce qui s'est passé, on ne saurait extirper les acteurs politiques que nous sommes dans ce qui est arrivé. Ça veut dire que chacun d'entre nous doit faire l'effort d'être un bon relais pour le président de la République auprès des populations. Permettre aux populations de mieux comprendre ce que le président est en train de faire pour la Casamance et non de se donner en spectacle. Nous devons nous remettre en cause et d'être de bons exemples pour la jeunesse de Ziguinchor et pour la population de Ziguinchor. L'arrogance n'a pas de place dans nos comportements. La violence doit être bannie dans nos discours et dans nos comportements.
Je précise que vous parlez de Doudouka.
Je ne parle pas de Doudouka, je parle de tout le monde. Moi-même, je pourrais tomber dans de telles provocations. Mais est-ce qu'il faudrait que je me comporte ainsi? Je dis, même ceux qui sont autour de nous, qui sont qui nous accompagnent...
Lundi, si vous étiez à la place de Doudouka, vous n'auriez pas fait ce qu'il a fait avec ses partisans?
Je crois que j'aurais eu la lucidité de ne pas réagir ou de passer mon chemin. Parce qu'encore une fois, à Ziguinchor, il n'y a pas de zone de non-droit. Il n'y a pas de zone interdite, il n'y a pas de quartier interdit. La libre circulation des biens et des personnes est consacrée dans notre pays. Ce n'est pas une pierre que je jette à Doudouka, mais je considère que ce qui s'est passé ne sert pas les intérêts de notre République, ne sert pas les intérêts du président de la République. Et quelles que soient les provocations qui peuvent venir de l'opposition, nous devons garder notre calme et notre sérénité. C'est nous qui avons intérêt, nous du pouvoir, qui avons intérêt à ce qu'on ne nous entraîne pas dans un tel cycle parce qu'il serait profitable à l'opposition. Nous devons reconquérir le cœur des Ziguinchorois. C'est sûr et certain qu'il y aura d'autres provocations. Il faudra dès à présent appréhender cette chose-là et trouver les moyens d'éviter de tomber dans les manœuvres provocatrices de l'opposition.
Pasteur ne décolère pas. Bassirou Diomaye Faye, le patron des cadres du parti de Sonko, qu'on a vu déclarer dans la presse du week-end qu'il y avait une intention d'assassiner Ousmane Sonko à Ziguinchor. Comment réagissez-vous à ces déclarations?
De plus en plus, je vois des leaders politiques, au-delà de celui que vous venez de citer. J'ai entendu aussi un autre leader politique dire qu'il y aurait complot pour l'assassiner en Casamance. Je considère que tout ça, c'est une insulte aux Casamançais. Pourquoi chaque fois qu'un leader politique va en Casamance ou veut aller en Casamance, prétend qu'il va y être assassiné? Les Casamançais ne sont pas des assassins. La Casamance est la plus belle terre d'accueil du Sénégal, où se côtoient toutes les langues, toutes les cultures, toutes les religions. Nous vivons dans une parfaite harmonie. Qu'on arrête de stigmatiser les Casamançais. Ce n'est pas acceptable et nous ne saurions le cautionner. Il est plus dangereux de vivre dans certains quartiers à Dakar que de se promener dans les villages de la Casamance. Il n'y a pas une seule zone de la Casamance où je ne mets pas les pieds. Sans escorte. Sans escorte. Dans nos villages, les gens vivent en parfaite harmonie. Nous ne sommes pas des meurtriers, nous ne sommes pas des assassins, malgré le conflit qui a pu exister là-bas. J'invite les uns et les autres à respecter les Casamançais. Personne ne s'est jamais senti en danger là-bas. Donc, je souhaite que les uns et les autres cessent de crier au complot ou à l'assassinat quand ils sont en Casamance.
Ils le disent peut-être en pensant certainement aussi à la procédure judiciaire contre Sonko dans l'affaire présumée de viol dans laquelle il est cité et que certains assimilent à une tentative d'éliminer politiquement Ousmane Sonko, non?
C'est l'avocat. Moi, les affaires pendantes devant la justice, je n'en parle jamais. Parce que j'ai confiance aux institutions de mon pays. Je fais bénéficier aux accusés la présomption d'innocence. Je plaide aussi pour que les accusateurs puissent bénéficier d'une justice équitable. Donc, à ce niveau, cette affaire est devant les juridictions. Tout ce que nous attendons de l'institution judiciaire sénégalaise, c'est qu'elle vide au plus vite cette affaire et que cette page soit tournée.
Voilà ce que certains vous reprochent, cette façon de parler de cette affaire-là, de cette affaire Ousmane Sonko à Dissar, et les attaques subies par votre camp et votre chef Macky Sall, vous Benoît Sambou. Certains vous accusent de n'avoir pas joué franc jeu, de n'avoir pas assumé votre appartenance au camp présidentiel quand cette affaire-là a occupé le devant de l'actualité pendant longtemps avec les violences qui ont suivi. L'éditorialiste Madiam Baldiane, par exemple, qui l'a souligné d'ailleurs dans cette émission du grand jury de RFM, pourquoi êtes-vous resté alors discret dans cette affaire qui a pris forcément une tournure politique ?
Il y a eu bien d'autres affaires judiciaires au Sénégal. Est-ce qu'on m'a déjà entendu me prononcer sur ces affaires ? Vous savez, moi, je suis un républicain convaincu. J'ai un profond respect pour l'État. J'ai un profond respect pour les hommes. Personne n'est à l'abri de désagréments judiciaires. Dans tous les cas qui ont pu se passer ici, j'ai toujours refusé de m'en prononcer à la place de ceux qui doivent rendre la justice. Il faut éviter de politiser les choses.
Est-ce que vous doutez des accusations dans cette affaire, accusations contre Ousmane Sonko ? Vous en doutez ?
Je vous ai dit, cette affaire est devant les juridictions. Je ne suis pas un enquêteur, je ne suis pas un juge. Il faut laisser ceux qui ont entre les mains ce dossier le vider. Et après, on pourra faire l'histoire. Et pour le moment, il faut éviter d'en rajouter. Et moi, encore une fois, on ne m'a jamais entendu me prononcer dans des affaires pendantes devant la justice. Par respect pour ceux qui sont incriminés, par respect pour ceux qui accusent, par respect pour nos institutions.
Ces tensions de Ziguinchor de lundi démontrent sans doute une nouvelle fois Ousmane Sonko. Il fait peur dans vos rangs quand on regarde les résultats de la dernière présidentielle.
Écoutez, faire peur, moi, je ne comprends pas cette analyse. Je vous ai dit, écoutez, lors des élections législatives de 2017, le PASTEF a eu, dans tout le département, environ 5000 voix. Un an et demi après...
La référence est sans doute la dernière présidentielle.
Oui, hein. j'arrive, je suis dans l'analyse. Un an et demi après, à la présidentielle, ils nous ont battus de plus de 8000 voix. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Je crois que dans le management du groupe ou dans la préparation de cette campagne, nous avons failli. Les leaders n'ont pas joué le bon rôle. Ils n'ont pas travaillé la main dans la main. Mais la chose la plus importante, parce que moi, je ne fais pas dans la langue de bois. Et en tant que proche collaborateur du président de la République, mon rôle, c'est de lui faire des analyses et de lui dire les raisons que je pense avoir provoquées, que je pense qui ont provoqué notre défaite lors des présidentielles. Aujourd'hui, la population Julien Choroise et quasiment cette manière globale est très très jeune. Les jeunes n'appréhendent pas de la même manière que les adultes les phénomènes qui les entourent. Ils ont une préoccupation principale, la formation, l'éducation et surtout l'emploi. Quelles que soient les réalisations qu'on peut faire, c'est moi qui peux apprécier le pont sur le fleuve Gambie, puisque je le traverse avec ma voiture. Je peux apprécier les rotations des vols Air Sénégal, de rotations par jour. Je peux apprécier la mise à disposition de navires avec des rotations quotidiennes sur la Casamance. Je peux apprécier les routes qui sont faites, la boucle des Kalounaï, la boucle du Blouf, etc., etc. Mais quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, notre seule préoccupation, c'est notre avenir. Et forcément, on n'appréhende pas les choses de la même manière que les autres. Et c'est pour cela qu'il faut faire un effort supplémentaire et intensifier les programmes pour permettre aux jeunes d'accéder à
l'emploi. Vous n'aurez pas le temps d'ici janvier, la date des prochaines élections territoriales.
Ce qui est important, c'est de ramener l'espoir. J'ai l'habitude de dire que les jeunes ne votent pas, ils sanctionnent. En fonction de leurs préoccupations du moment et de la situation qu'ils peuvent se faire de leur avenir. Il faut rassurer la jeunesse et continuer à dérouler les programmes tel que le président de la République est en train de le faire avec le programme d'urgence Khayoundaoui, mais surtout permettre le déploiement rapide de programmes structurants. Dans la région de Ziguinchor, bientôt, l'agropole va être lancée, l'agropole du Sud. Ce sera l'occasion aussi d'offrir beaucoup de perspectives d'emploi aux jeunes. Bref, je voudrais dire ici que tant que les jeunes ne sentent pas qu'ils sont au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, nous aurons des difficultés. Et c'est pour cela que tous les efforts doivent être centrés dans la prise en charge de leurs préoccupations quotidiennes et futures. Et c'est une des raisons principales de notre défaite au président.
Ça va davantage
quand
se compliquer.
Quand on a bien compris ce qui vous a amené à la défaite, on peut apporter des solutions. Et aujourd'hui, le pôle emploi de Ziguinchor a été installé. Le gouvernement est en train de dérouler et d'accélérer le processus d'identification et des problématiques des jeunes et de mise à leur disposition des capacitations nécessaires à l'accès donc à l'emploi. Il faudra que dans la gestion de nos collectivités, nous puissions mettre les questions économiques, les questions de jeunesse, les questions d'emploi au cœur de nos préoccupations. Il faudrait que les jeunes comprennent que la Casamance est sortie de 40 ans de crise, de 40 ans de non-investissement. Il faut un processus pour pouvoir réaliser leurs rêves. Premier processus, oui, c'était de désenclaver cette région pour permettre aux Casamançais de pouvoir se rendre de l'autre côté du Sénégal et sentir, sans difficulté, et sentir qu'ils sont des Sénégalais à part entière et non des Sénégalais à part.
On a bien compris.
Après les programmes d'enclavement, maintenant il faut relancer l'économie. Relancer l'économie, c'est inciter à l'investissement. C'est faire en sorte que le privé, qui doit être le principal pourvoyeur d'emploi, puisse avoir le courage de venir s'installer en Casamance. De faire en sorte que nous puissions créer des usines, créer des entreprises, créer des hôtels pour qu'ils puissent travailler. Parce qu'in fine, le gouvernement n'offre que la fonction publique comme perspective. Et dans la fonction publique, ce n'est pas extensible. Il faut que nous puissions maintenant savoir comment amener le privé à investir. Il faut mobiliser l'épargne locale. Prendre un exemple, cette formidable élan que nous constatons à Ziguinchor, avec ces femmes organisées dans des associations villageoises d'épargne et de crédit, communément appelées AVEC, qui réussissent à mobiliser de l'épargne. Comment faire en sorte pour que cette épargne puisse être fructifiée? Comment faire en sorte pour que cette épargne puisse être réinvestie? Comment faire en sorte pour que nos femmes, aujourd'hui, qui réussissent à mobiliser de l'épargne, puissent être les entrepreneurs de demain?
On a bien écouté, Benoît Sambou, votre analyse pour expliquer le déclin de la coalition au pouvoir à Ziguinchor. Quand on regarde, je le rappelle, les résultats de la dernière présidentielle. Mais là, pour les territoriales, si le phénomène Ousmane Sonko garde la même trajectoire, s'il se présente, lui, Ousmane Sonko, à Ziguinchor, aux prochaines municipales ou départementales, c'est presque perdu d'avance pour vous, n'est-ce pas?
Babacar, je prends date ici avec vous. Nous reviendrons après les élections locales. Je peux vous dire que la Casamance ne sera pas dans l'opposition. Parce que la Casamance comprend où sont ses... Les Casamanciens savent où sont leurs intérêts.
Il faudra d'abord que votre coalition sache qui elle va investir. La tâche ne sera pas facile. Pas du tout alors, parce qu'il y a du monde. Vous, Benoît Sambou, coordinateur départemental de l'APR à Ziguinchor, Doudouka, dont on a beaucoup parlé dans cette émission, le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne de Gas. Il y a aussi vos alliés, Abdoulaye Baldé, patron du parti politique UCS et actuel maire, ainsi que son premier adjoint, Seydou Sané, par ailleurs président du Casasport. Comment allez-vous faire?
Tous les partis du Sénégal ont des, et les coalitions ont des problèmes d'investissure. Ce n'est pas une chose inhérente à l'APR. Tout le monde, dans tous les partis politiques, les gens font de la politique pour avoir des ambitions. Les gens ont le droit d'avoir de l'ambition. Tout le monde a des difficultés pour organiser ses listes. Donc, ça ne peut pas être un handicap pour la paire. Le président de la République m'a confié une mission. Celle de travailler à organiser et à rassembler le plus largement possible les forces vives de la région et la majorité présidentielle. Nous sommes en train de travailler. Beaucoup de contacts ont été menés. Et je pense que même cette semaine, j'aurai finalisé le cycle de rencontres que je suis en train de faire.
Est-ce que vous avez parlé à tout le monde?
J'ai dit cette semaine, je terminerai le cycle de rencontres. Bien sûr qu'il ne reste que 2 ou 3, 4 contacts à mener encore. Mais je crois que au bout,
avec qui vos alliés ou vos partisans de la
paix? Tout le monde. Au bout du processus, tout le monde sera consulté, tout le monde sera associé. Et pour l'intérêt de la région, pour l'intérêt de Ziguinchor, pour l'intérêt du Sénégal et de la majorité présidentielle, nous trouverons des consensus. J'ai l'habitude de dire, il ne s'agit pas aujourd'hui d'annoncer des candidatures qui est important. Et cela est valable aussi pour notre parti dans l'ensemble du territoire. Comprendre la directive présidentielle, c'est d'aller construire des consensus forts à la base. Nous ne saurions envisager une victoire éclatante si les acteurs politiques à la base ne se parlent pas. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, ça ne doit déranger personne de voir quelqu'un avoir des ambitions. Au-delà des 4 que vous venez de citer au niveau de Ziguinchor, d'autres aussi ont des ambitions. Ce n'est pas parce qu'ils ne l'expriment pas qu'il faut les exclure. L'essentiel, c'est que quand nous aurons fini de retenir le principe d'être ensemble, il faudra travailler au partage des responsabilités. Et d'ailleurs, je dis tout le temps aux gens, au-delà des élections locales, municipales et départementales, se profilent les élections au Conseil des collectivités territoriales, se profile peut-être le renouvellement du Conseil économique, social et environnemental. Il y aura forcément une redistribution des rôles.
Et les législatives, sans doute.
Et les législatives, 6 mois après.
Et pour ces territoriales.
Il y a la place pour vraiment permettre aux uns et aux autres De jouer un rôle.
Mais pour les territoriales de janvier 2022, si le président de la coalition Beno Bokouyakar Macky Sall ne vous choisit pas comme tête de liste sur les départementales ou sur les municipales, est-ce que vous allez l'accepter ?
Avocat, ne cherchez pas la petite bête. Je suis dans une mission. Je n'ai même pas, moi, encore déclaré de candidature. Personne ne m'a entendu parler de candidature. J'ai interdit à mes partisans de le faire. Je dis, vu mon statut et mon rôle, ce serait manquer de respect aux partenaires et aux amis que de claironner ma candidature. Nous sommes en train de travailler et c'est nous qui allons proposer au président de la République les termes de notre consensus. Nous n'attendrons pas que le président décide pour nous. Nous allons arriver à des solutions qu'il va valider et s'il y a des différends, il les arbitrera en fonction de ce qu'il entendra des uns et des autres parce qu'il est à l'écoute de tout le monde. Donc ce n'est pas une préoccupation pour moi les investisseurs, c'est de réussir la mission que le président m'a confiée, celle de parler avec tout le monde, de convaincre tout le monde d'être ensemble.
Benoît Sambou, l'invité du grand jury de RFM ce dimanche, patron de l'APR dans le département de Guinchor, mais président de la CNDT, la Commission nationale de dialogue des territoires, qui a comme mission, on le rappelle, cette commission-là, assister le président de la République dans la définition de mécanismes de coopération territoriale, accompagner le gouvernement dans la promotion des groupements d'intérêt communautaire, aider les collectivités territoriales à la mise en place de groupements d'intérêt communal et à la création d'établissements publics territoriaux. Beaucoup de littérature, en tout cas, dans les 6 missions qu'on vous a confiées. 4e mission, faciliter la constitution de groupements territoriaux et ou pôles territoires. 5e mission, faciliter les relations entre gouvernement et collectivités territoriales d'une part et d'autre part entre collectivités territoriales elles-mêmes pour améliorer la concertation entre acteurs territoriaux. Enfin, fournir au président de la République, c'est ça aussi votre mission, fournir au président de la République et au gouvernement les analyses nécessaires au renforcement des ressources humaines, matérielles et financières des collectivités territoriales. Qu'avez-vous fait dans tout cela ?
Alors, comme vous-même vous le voyez, nous sommes vraiment un bureau d'études. Nous n'avons pas une mission exécutoire.
On ne vous entend pas, on ne vous voit pas.
Oui, quand on est un bureau d'études, on ne fait pas dans le bruit et la publicité. On travaille et on assiste. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons fini d'élaborer donc, les instruments.
Oui, mais Benoît Sambou, la commission ne tient même plus ses sessions ordinaires depuis plus d'un an.
Je vais y arriver. Je dis, nous fonctionnons comme une sorte de bureau d'études où nous assistons, proposons, nous mettons à la disposition du gouvernement et des acteurs territoriaux. Par exemple, sur les questions de coopération territoriale, nous avons fini depuis longtemps d'élaborer la loi sur l'intercommunalité et l'interterritorialité. Mais c'est au gouvernement, à travers le ministère des collectivités territoriales, de prendre en charge cette question et de la traduire devant l'Assemblée nationale.
Oui, c'est un projet initié par votre prédécesseur, Dibolitika.
C'est nous qui l'avons finalisé. En fait, aujourd'hui, nous avons, quand je suis arrivé, nous avons réfléchi sur un programme de territorialisation du plan Sénégal émergent. Disons, il faudrait que nous puissions, dans la perspective de l'acte 3 de la décentralisation, faire en sorte que quel que soit le lieu d'habitation, quel que soit le territoire, que les acteurs puissent contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par le plan Sénégal émergent en nous appuyant sur les indicateurs qui y figurent. Nous avons dit aujourd'hui, nous allons faire en sorte que nous puissions identifier les ressources disponibles et amener les acteurs à les exploiter en commun. Parce que si nous ne mettons pas ensemble, si nous ne mutualisons pas les missions, les compétences, nous n'arriverons pas à des programmes structurants.
C'est ça aussi l'autre sens de l'intercommunalité.
C'est pour cela que l'intercommunalité doit venir renforcer et accompagner et susciter le regroupement et l'organisation des acteurs territoriaux autour de leurs propres initiatives. Nous avons beaucoup agi et très discrètement dans la résolution de certains conflits fonciers. Et d'ailleurs, dans le cadre de la plateforme sur
la gestion du frontier. C'est un conflit qu'on a remarqué à Kanten, voilà, à Ndiafat, à Passy.
Et ailleurs. Et nous avons proposé d'aller plus loin aujourd'hui. C'est de faire en sorte que nous puissions mettre un dispositif qui prévienne et qui apporte de la médiation dans les conflits. Il faut que nous puissions aujourd'hui réformer peut-être la loi sur le domaine national. Permettre aujourd'hui une autre forme de contractualisation entre les investisseurs et les acteurs locaux. Nous sommes en train d'apporter beaucoup de réflexions qui permettront sûrement au gouvernement de pouvoir s'appuyer sur des éléments nouveaux. Au-delà de ça, nous avons accompagné beaucoup d'acteurs territoriaux à se retrouver. Le mois dernier déjà, nous étions à Nioro autour de l'entente sur le delta versant de Keur Diatta. Maintenant, le Covid nous a rattrapés. La pandémie nous a rattrapés. Ce qui a fait que nous avons eu beaucoup de difficultés à organiser des sessions. Deuxièmement, le mandat des conseillers était à terme. Et il fallait saisir toutes les institutions qui sont regroupées autour de la CNDT pour qu'elles nous délèguent ou qu'elles mandatent d'autres conseillers. D'ailleurs, le processus n'est pas fini parce qu'il y a encore une ou deux institutions qui n'ont pas encore répondu. C'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu d'organisation de session pratiquement cette année parce que le mandat de tous les conseillers avait pris fin. Quand on aura fini le processus de renouvellement du mandat des conseillers, mais nous reprendrons notre travail comme nous le faisions au sein des conseils parce que depuis que je suis arrivé, les sessions étaient régulièrement organisées.
CNDT, HCCT, doublon ? Non.
Pas du tout. Il faut juste comprendre le rôle des uns et des autres. Là-bas, c'est une assemblée d'élus. Nous, nous sommes un groupe de réflexion.
D'élus et de nommés aussi.
Pardon ?
D'élus et de nommés aussi.
Oui, mais une assemblée d'élus. Parce que là-bas, quand je parle d'élus, c'est des élus territoriaux. Il n'y a personne qui est là-bas sans avoir été donc un élu local. C'est une assemblée d'élus qui joue son rôle, qui aide le gouvernement à planifier, qui interpelle les acteurs, le gouvernement sur donc les projets, programmes et leurs missions par rapport aux collectivités territoriales. Nous fonctionnons plus, beaucoup plus comme un bureau d'études, un bureau d'assistance.
Les maigres moyens des collectivités territoriales, est-ce que ça facilite tout ce que vous voulez déployer comme projet de développement de ces territoires? Qu'est-ce qu'il faut faire pour booster les finances de nos conseils départementaux et de nos mairies dans le pays?
Très bonne question, Baruka. Vous savez, et tout le temps, quand on veut être maire, président de département, il faut se mettre dans une perspective de mobiliser des ressources au-delà de ce que l'État peut offrir en termes d'accompagnement. Il faudrait à ce niveau-là, d'abord, faire en sorte que nos territoires soient résilients, qu'ils puissent apporter de la plus-value et que des programmes d'investissement puissent s'y dérouler. Et c'est pour cela que l'interterritorialité ou l'intercommunalité a un sens. Parce qu'effectivement, il y a des territoires qui ne regorgent pas de beaucoup de richesses, mais qui ont de l'espace. Il y a d'autres territoires qui sont complètement cernés, qui ne peuvent plus s'élargir et qui pourraient, en collaboration et en partenariat avec d'autres territoires, disposer d'espace pour l'implantation donc de projets structurants ou de projets d'investissement. Il faut que nous puissions apporter de l'innovation.
Trop prétentieux peut-être, parce que des choses que l'État central ne réalise pas, comment les collectivités territoriales elles vont faire?
Mais la décentralisation doit être une réalité dans ce pays, sinon ça n'a aucun sens diriger des communes et des départements. Et de transférer des compétences.
Le problème, justement, c'est la concrétisation du concept de décentralisation.
Pour les acteurs territoriaux, de comprendre leur rôle et d'aller au-delà de ce que l'État peut leur donner. Il s'agit d'être dans la créativité. Il s'agit d'être dans l'innovation. Il s'agit de développer d'autres formes de partenariat pour permettre qu'on puisse avoir de la richesse. Je donnais tout à l'heure pour Ziguinchor l'exemple de ces femmes organisées dans des associations villageoises d'entraide communautaire. Elles ont besoin d'un modèle économique. Aujourd'hui, l'acteur territorial doit permettre à ces femmes-là de développer de véritables entreprises pour qu'elles puissent en retour payer l'impôt. Comment faire en sorte pour que nos artisans puissent passer d'une étape à une étape semi-industrielle et pourquoi pas industrielle? Parce que si l'économie marche, nous collectons beaucoup plus d'impôts. Il faut faire en sorte que nos municipalités soient de véritables instruments économiques à la disposition des acteurs locaux, à la disposition des populations pour que l'économie puisse, pour que les investissements puissent se faire et que l'économie puisse se développer. Tant qu'on ne développera pas notre économie, il n'y aura jamais de recettes fiscales. Il ne faut pas rêver. Donc, plus il y aura de l'activité économique, plus il y aura des ressources. Et c'est à ce niveau qu'on attend les acteurs territoriaux. C'est à ce niveau qu'on souhaite qu'il y ait beaucoup plus de culot, si vous me permettez le mot, d'imagination et de volonté.
Il faut les doter de leviers aussi pour faire ça. On peut prendre,
les leviers sont à leur disposition. La décentralisation, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, est une réalité.
Quand on regarde la commune de Dias, qui abrite l'aéroport international Blaise Diagne de Dias, et cette fois, ce n'est pas pour parler de votre ami Doudouka, vraiment. Mais,
mon petit frère.
Oui, alors, je veux dire, Dias aujourd'hui, les autochtones, la municipalité, on est en train de prendre les terres, l'aéroport ne leur profite pas vraiment, presque pas de retombées. Comment expliquer cela?
C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit.
On peut parler de l'AIBD, on peut parler des autres industries implantées dans des collectivités territoriales.
Mais il y a toute une réforme à apporter dans la gestion, je l'ai dit tout à l'heure, de la loi sur le domaine. Aujourd'hui, notre gestion foncière s'est enfermée dans une logique de conflit entre un système de droit réel détenu par les investisseurs et une exploitation locale par les populations. Il faut arriver à ce qu'il y ait un véritable partenariat gagnant-gagnant et que les investissements et ou la volonté d'investissement puissent profiter aux uns et aux autres. Mais aussi faire en sorte que là où il y a les zones où il y a des investissements forts, vous avez parlé de l'aéroport de Dias, que nous puissions permettre une redistribution plus large des retombées de l'implantation de ces investissements-là. Sinon, ça ne peut profiter qu'à un petit nombre. Donc, c'est pour ça que je dis, nous, notre rôle au niveau de la CNDT, c'est d'apporter cette réflexion-là et d'amener les acteurs à réformer. On ne peut plus gérer le pays comme avant. Aujourd'hui, avec ce que nous sommes, la plateforme de Diamnadio, mais ne doit pas profiter à une seule commune. Parce que c'est l'État qui est investi. On avait parlé de Dakar, il y a eu tout un tollé. Dakar bénéficie des plus grands investissements de l'État. Est-ce que c'est Dakar seulement qui doit en profiter, etc., etc. Donc il faut que les gens sortent des débats politiciens.
Merci Benoît Sambou.
Et que nous puissions aller au-delà, qu'on ait beaucoup plus de générosité. Il y a de la place pour développer notre pays à travers les territoires.
Vous êtes le président de la Commission nationale de dialogue des territoires avec un rang de ministre d'État. On le rappelle, c'est une commission rattachée à la présidence de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Abdou et Alioune qui étaient à la régie. Les programmes continuent sur nos antennes. Bonne fin de week-end à tous.
Merci, Babaka.
Me taken